Bonjour à tous et bienvenue sur le Learn and Earn Crypto Podcast. Et cette semaine, sur le podcast, on reçoit Wassim pour une deuxième fois afin de parler de la vérité sur les propres firmes. Donc sur ce, bonne écoute.
Est-ce qu'on a déjà eu quelqu'un deux fois? Je pense pas.
Je sais pas.
Je pense pas. Ouais. Bah, Alanis, on l'a eu quelques fois. Ouais, je pense qu'on avait eu. Mais à part. Goy, on l'a eu quelques fois. Mais je veux dire, en général.
Ouais, on a déjà eu.
Ah ouais? Mais pas souvent, en tout cas.
Non,
t'es spécial.
Quoi.
T'es spécial.
Super.
So, avant qu'on commence, je vais faire le disclaimer.
Yeah.
Je suis en train de battre des records de vitesse en passant, guys. So. Vous êtes prêts?
Vas-y.
Je ne suis pas conseiller financier comme vous avez. Ah, oh, fuck.
Point.
Je ne suis pas conseiller financier. Tout ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui ne peut pas être vu comme un conseil financier. Vous devez faire vos propres recherches, analyser, décisions. L'investissement et le trading, c'est risqué. Ça veut dire potentiel gain, mais potentiel perte, voire grande perte. Donc, toujours utiliser de l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre. Et les résultats passés ne garantissent pas les résultats futurs.
Let's go.
Wow. Même pas une seconde.
Zut. All right, guys. Et comme vous savez, faites attention sur les réseaux sociaux. Il y a quelques scams qui copient nos noms et tout ça. Donc, voilà.
Puis,
Wassim.
On va parler de propres firmes aujourd'hui, mais je vais rajouter un autre disclaimer par-dessus. Même si on mentionne des noms, on n'est pas affilié avec aucune propre firme, donc c'est aucunement un conseil d'aller vers ces propres firmes-là.
So, aucun broker, aucun propre firme, aucun rien. On n'est pas affilié, on n'a rien à voir. On utilise ces termes et ces noms-là à titre d'exemple éducatif seulement. Faites vos propres recherches.
C'est quoi le nom de ton propre firme?
Juste pour te représenter, pour ceux qui t'ont pas entendu sur le précédent podcast.
Ben, moi, c'est Wassim, 25 ans. Maintenant, funded trader.
Let's go.
Pas comme à l'ancien podcast. Donc, on a travaillé fort, on a appris. Je fais partie de l'académie. Puis, c'est ça. Maintenant, je peux me dire trader.
Yeah. Félicitations. Le dernier podcast, c'était quand? Parce que tu commençais.
C'était au mois de mai.
Au mois de mai,
ouais.
Moi, je compte sur mes doigts.
Hein. Moment de silence, on est là en train de...
Cinq mois, ça, c'est quand même nice parce que je me souviens, il y a 5 mois, quand on en a parlé, tu étais en train de regarder, apprendre, commencer à te développer pour le faire. Et 5 mois plus tard, c'est fait. Et pour la plupart des gens... 5-6 mois, c'est... Ah, ça a pris 6 mois, mais c'est rien, 6 mois. C'est rien, mais en même temps, c'est beaucoup. Parce que la plupart des gens vont jamais être capables d'être constants pendant 6 mois. Donc déjà, félicitations
pour
ce développement-là, bro.
T'as vraiment eu un beau et un bon cheminement aussi parce que ça fait déjà un bon moment qu'on se connaît. Puis tu mets du temps.
Tu mets de
l'énergie, tu mets de l'effort.
C'est sûr. Tu sais, le trading, c'est comme... C'est comme n'importe quoi. Tu ne deviens pas médecin en regardant quelques vidéos YouTube et tu fais ta chirurgie directement. Ça prend du temps. La beauté de la chose, c'est que ce n'est plus comme avant.
S'il vous plaît, écoutez ce qui vient.
On a accès à tellement d'informations. Donc, on peut aller plus vite, mais il ne faut pas être trop pressé. Il ne faut pas s'attendre à faire le million une semaine comme plusieurs penches.
Non, exact.
Donc, c'est surtout ça. Prendre son temps, mettre du temps. Plus tu mets du temps, plus tu vas être bon rapidement. C'est comme dans tout.
La loi
comme
du
dans
10 000
le sport. Exactement. Ouais. Exactement.
Puis qu'est-ce que tu fais exactement dans ce temps que tu mets pour devenir bon en trading, tu dirais?
Moi, ce que j'ai... La première étape, c'est vraiment s'éduquer. S'éduquer le plus possible. Que ce soit regarder des vidéos, des livres, que ce soit pour du swing trading, intraday, scalping. Juste tout regarder. Après, vraiment... trouver sa stratégie, trouver ses heures de trading, qu'est-ce qui nous convient le mieux. C'est pas tout le monde qui peut être scalper, c'est pas tout le monde qui peut faire du swing. Il faut s'adapter aussi avec son horaire. Puis à partir de là, passer le plus de temps possible sur les marchés, en live, regarder ce qui se passe. Backtest sur ses temps libres, lire différents livres. Tu sais, regarder, même des fois regarder des podcasts, des fois regarder le Learn and Earn podcast, on peut apprendre. Tu sais, c'est vrai, on peut apprendre beaucoup. Il suffit d'une phrase pour 100%. Débloquer quelque chose qui manquait, puis passer à l'étape supérieure.
Justement, on s'entend que le podcast a changé beaucoup de vie depuis le début. Donc,
je l'ai réalisé surtout quand on a été à Zurich, là, qu'on avait fait le tour de table. Et, en tout cas, je ne vais pas nécessairement expose, mais c'était absolument incroyable de voir comment certaines personnes, ça. ça n'a pas juste changé leurs finances, ça a changé leur mindset, leurs finances, mm-hmm. et ça a changé leur vie au point que certaines personnes avaient des pensées suicidaires, là, comme ils étaient en dépression. Et c'est quand on dit l'argent ne fait pas le bonheur, c'est vrai, mais l'argent n'a jamais été là pour faire le bonheur. Cependant, il y avait, je lisais sur une recherche un livre qui s'appelle Happy Money, et il disait qu'en fait, l'argent peut te rendre plus heureux si tu l'utilises principalement pour deux choses. Aider, donc permettre à d'autres personnes de vivre mieux et faire des expériences. Et la réalité, c'est si tu es capable de voyager avec ta famille et tout ça, et d'aider les autres à grandir, à manger, des enfants qui n'ont pas d'argent, tu leur donnes pour qu'ils puissent manger, avoir des vêtements, crois-moi, tu vas te sentir plus heureux. C'est pas l'argent directement, c'est un outil, par exemple, qui peut venir amener une de ces phases d'abondance qui aide à se sentir complet. C'est quand même fou.
Mais tu sais, ça me fait penser, on déroge un peu du sujet, mais ça me fait penser que quand tu es enfant, tu n'as aucun souci, puis tu as vraiment juste du plaisir à jouer, puis qu'en étant adulte, on oublie souvent à justement prendre ce plaisir-là. Donc, c'est juste à se poser la question, c'est quoi qui, toi, dans la vie de tous les jours, te fait vibrer, te rend heureux, tes passions, tu comprends? Puis la réalité, c'est qu'avec le travail, avec tout ce qu'on a, la famille, les enfants, métro, boulot, dodo, whatever, comment qu'on appelle ça, bien, on vient manquer de temps. Mais si tu es capable d'avoir assez d'argent pour te libérer du temps puis faire des choses qui te passionnent, des choses qui te rendent vraiment heureux puis qui te font vraiment vibrer, bien, c'est de là qu'on peut dire que l'argent, c'est un outil pour te rendre heureux.
Bien sûr. Mm-hmm. Tu sais, on est avec le travail et tout ça, les obligations, on est souvent en mode autopilote. Mm-hmm. On oublie, on pense vraiment juste 9 à 5. Puis après, tout ce qu'il y a après le 9 à 5, c'est vraiment c'est pour nous oublier, pour oublier qu'on travaille. Ouais, il y a Netflix, c'est facile. On clique sur un bouton, on a différents épisodes, on peut passer jusqu'à minuit juste à regarder la télé, ça va passer super vite. Les réseaux sociaux, juste scroll sur TikTok sans arrêt, le temps passe vite. Puis la beauté de ça, la beauté du trading, c'est d'avoir une liberté, la beauté de faire de l'argent aussi, on peut tout faire avec de l'argent. On peut être heureux parce qu'on peut acheter pas mal ce qu'on veut, à différents niveaux bien sûr, mais on va dire que si on a de l'argent illimité, on achète ce qu'on veut, on mange ce qu'on veut, on conduit la voiture qu'on veut, on se réveille quand on veut. Puis ça, c'est magnifique. Mm-hmm. Puis malheureusement, moi, je trouve, pour ma part, le monde qui dit que on n'a pas besoin de l'argent, l'argent, c'est pas le bonheur et tout ça, c'est parce que peut-être pour eux, l'argent, c'est un problème, puis ils veulent le fuir.
C'est souvent un problème. Souvent un problème ou un manque d'argent ou la personne a une incapacité ou une non-volonté de vouloir comprendre et savoir comment est-ce que tu peux avoir plus d'argent, comment est-ce que tu peux en créer plus. Fait que tu vis dans le déni du fait qu'en gros, t'es juste un esti de cassé qui veut pas se bouger le cul.
C'est vrai. Ben, il faut juste se bouger.
Non, mais c'est vrai. Là,
mais j'avais entendu un truc de, je pense que c'est Grant Cardone ou quelque chose comme ça, je sais plus. Il avait dit money is not... L'argent, c'est pas le bonheur. Mais c'est pas le malheur non plus.
Non, exactement.
Il a dit, j'ai jamais vu quelqu'un de malheureux parce qu'il faisait évident de gagner $1,000,000.
Non, c'est ça, exact.
C'est sûr.
So, revenons sur les prop firms. Non, mais c'était super intéressant comme intro. Revenons sur les prop firms. Déjà, à la base, on le sait, les prop firms... Bon, en tout cas, c'est pour ceux qui me connaissent, ben, ils savent que moi, j'aime bien les prop firms, même si c'est quelque chose qui, à mon avis, n'est pas soutenable sur le long terme. Puis on va voir un peu plus tard pourquoi, mais que c'est pas soutenable sur le long terme. Ça reste quand même un bel outil que tu peux utiliser pour soit venir bâtir ton propre compte de trading ou diversifier ton portfolio sur le long terme quand c'est utilisé de la bonne façon. Par contre, il y a une chose à comprendre, c'est que les prop firms, c'est assez challengeant, OK? Déjà, à la base, c'est du trading, c'est pas de l'investissement. Puis toi, ben, comme tu dis, Sam, d'habitude, l'investissement, c'est beaucoup plus... je vais pas dire facile, mais beaucoup plus simple que le trading en soi, parce que, comment que tu dis, là, le trading, tu joues contre le temps?
Vas-y, le trading, tu joues contre le temps et contre l'argent. Plus t'es longtemps dans un trade, plus c'est risqué. Quand tu trades, c'est comme si tu pars à la guerre, tu comprends? Quand tu investis, tu pars à la chasse. Tu essaies de chasser un chevreuil, tu as ton fusil, le chevreuil, soit il va se sauver, soit tu vas l'avoir. OK? Mais quand tu pars faire du trading, tu pars à la guerre. So, tu pars avec un fusil contre quelqu'un d'autre qui est dans la forêt, que son but aussi, c'est de te tirer et qui a un fusil. Plus longtemps tu es dans la forêt, plus longtemps tu risques de mourir. So, c'est comme un Hunger Game, genre. Ton but, c'est juste d'éliminer tout le monde le plus rapidement possible puis de sortir de cette merde le plus rapidement possible. Parce que la réalité, c'est que lorsque tu trades, premièrement, tu dois réaliser que tu trades. Souvent, les gens trade, ils font du scalping, des très courts time frames. Ça veut dire qu'ils sont automatiquement beaucoup plus... C'est comme si tu prends une roche et tu lances la roche dans l'eau. Je te prends une grosse roche, je la lance dans l'eau. Qu'est-ce qui va se passer? Quand la roche va atterrir, va arriver dans l'eau, ça va créer des ondes, ça va créer des vagues autour. Et les vagues les plus proches de la roche vont être plus grosses. Et plus ça s'éloigne, plus ils vont être calmes, moins il va y avoir justement ces vagues qui se créent, cette onde-là. Mais les gens, quand ils vont sur des petits time frames, ce qui se passe, c'est que tu dois réaliser que tu trades contre des gens des institutions qui ont des centaines de millions de dollars, avec 20-30 millions de dollars de serveurs dans le sous-sol, puis d'ordinateurs. Puis tu essaies de trader contre des gens qui font du HFT, c'est-à-dire que le temps que toi, tu reçois l'information sur le 1 minute, eux, ils l'ont déjà reçu avant toi, bien avant toi, et ils ont eu le temps d'agir 10 fois dessus et avec un million de fois l'argent que tu as. So, qu'est-ce qui se passe dans cette situation-là? Ben, c'est que le trading, tu trades contre l'argent et contre le temps. C'est littéralement un chrono, quoi. T'es à temps chrono, c'est vraiment, tu dois rentrer le plus vite possible, saisir ce que tu as à saisir, ressortir. Et c'est autant vrai pour un swing trader que pour un scalper. Je m'en fous si tu es un scalper ou un swing trader. Si tu swing trade et que tu peux hit ton TP en 2 semaines, tu aimes bien mieux ça que de le hit en 2 mois.
C'est sûr.
Et si tu scalp et que tu peux hit ton TP en 30 secondes, tu aimes bien mieux ça qu'en 5 minutes. Ton but, c'est de faire l'argent le plus rapidement possible parce que tu veux être le moins de temps possible dans le marché.
En exposition.
Exactement. Tandis que quand tu investis, tu changes complètement la game parce que tu mets le temps et l'argent de ton côté. Pourquoi? Parce qu'on est conscient que les institutions, ça ne les dérange pas d'avoir des pertes impermanentes ou même des pertes sur tes trades pendant quelques jours, quelques semaines, quelques mois. Mais au bout de 10, 15, 20 ans, eux aussi veulent être gagnants. Donc là, maintenant, au lieu de trader contre eux et contre leur argent, tu trades avec le même mindset eux et avec leur argent parce qu'eux aussi veulent cet objectif d'être gagnants dans 10, 15 ans. Donc, tu es dans le même véhicule qu'eux. Et maintenant, au lieu de te battre contre le temps, parce que le plus longtemps tu es dans un trade, le plus tu prends de risques, là, au contraire, le plus longtemps tu es dans le marché, le plus tu laisses le temps à l'effet cumulé. So, quand tu trades, tu mets le temps et l'argent de ton quand tu trades, tu mets le temps et l'argent contre toi, ce qui est correct, il faut juste savoir ce que tu fais.
Exact.
Mais quand tu investis, tu mets le temps et l'argent avec toi. So, c'est pour ça qu'il faut faire les deux, honnêtement.
Puis, ce que j'aime bien aussi, c'est l'autre comparaison que tu avais déjà donnée du fait que quand tu investis, ben, en fait, tout le monde peut devenir une ceinture noire de karaté. Comme avec 2 cours 100%. Par semaine de 1 heure.
100%.
Donc, tout le monde peut devenir une ceinture noire un jour ou l'autre si tu t'arrêtes pas puis que tu continues. Donc, tout le monde peut apprendre à bien maîtriser l'investissement, mais le trading, c'est plus au niveau compétitif. Puis la réalité, c'est que même si tu prends une compétition qui est régionale, c'est pas tout le monde qui va faire de la compétition. Ma tante Ginette qui fait son karaté 2 fois par semaine, ça ne tentera peut-être pas d'aller faire de la compétition. Puis c'est là que ça nous amène que le trading, justement, c'est hyper compétitif.
Ben, c'est ça, tout le monde peut avoir sa ceinture noire. Peu importe ton niveau, entraîne-toi 3 fois semaine pendant peut-être 5 ans pour quelqu'un, l'autre 8 ans, l'autre 10 ans, il va avoir sa ceinture noire. C'est pas toutes les ceintures noires qui vont gagner les Olympiques.
Non, loin de là.
À chaque fois, il y en a un seul en passant par catégorie. Donc,
c'est ça.
C'est, voilà. Et c'est un peu la même chose.
Mais le trading, donc, c'est juste comme hyper compétitif. Non, le trading, c'est cool. Là.
Le trading, j'adore le trading.
Ah oui, moi aussi.
C'est juste que les gens... Ils mélangent les deux. Tu dois investir pour créer cette sécurité, avoir du revenu passif pour prendre ton mojito sur la plage. Parce que moi, toutes les vidéos avec le gars qui a son mojito sur la plage avec son ordinateur, je tue sur la plage. Ta vie est de la merde, bro.
Ben non. Moi, excuse-moi.
Tu vas très... Non, mais vous réalisez, genre, le derrière de ça, c'est comme ce branding, genre, je tue sur la plage.
Tu veux pas tuer sur la plage?
Non, bro, je veux pas tuer sur la plage, bro, c'est sur la plage.
Yo,
c'est ce revenu passif grâce à l'investissement qui fait que tu fais ce que tu veux quand tu es sur la plage. Et en fait, l'investissement, c'est une façon de créer un véhicule qui t'amène des passifs, du pur revenu pendant que tu dors et te créer une retraite pour toi et ta famille, les générations à venir. Que ça soit ton but, c'est d'être à 35 ans ou à 65 ans, ça dépend de chaque personne, mais c'est ça que ça crée, l'investissement. Ouais. Tandis que le trading, c'est un multiplicateur de revenus. C'est deux choses complètement différentes. Il y en a un, c'est pour créer du passif et bâtir quelque chose à long terme et une retraite quand tu veux, comme tu veux. Tandis que l'autre, c'est pour multiplier tes revenus.
C'est une de mes phrases préférées que tu avais dit. Si le trading, ça aide
je
à devenir...
Je vais me citer, genre, même moi, je me souviens pas de cette phrase.
C'est ça, le trading, ça t'aide à devenir riche, mais l'investissement t'aide à devenir libre, tu vois. Puis, c'est vraiment deux choses différentes, totalement.
Mais tu vois, avec le trading, justement, c'est ça que moi, j'aime au niveau des propres firmes, c'est que tu peux prendre juste ton propre capital puis l'investir et t'amuser avec le trading en utilisant ses propres... Parce qu'il faut comprendre une chose, les propres firmes sont là pour profiter du 95% qui vont faire le challenge. Eux, leur but, c'est de faire de l'argent avec toi parce que tu payes pour un challenge, t'échoues. Tu payes un autre challenge, t'échoues et tu continues de payer. Ça, c'est leur première source de revenus. Donc, eux vont utiliser toi et ton manque de compétences à leur avantage. Mais comment est-ce que toi, tu peux utiliser les propres firmes à ton avantage? Donc, si tu apprends à trader puis que tu le maîtrises bien, surtout avec les propres firmes, c'est super important de bien le maîtriser, mais tu peux utiliser ces propres firmes-là à ton avantage pour prendre... Pendant que tu es en train de travailler à ton job, ben, tu es en train de bâtir justement ton portfolio d'investissement. Mais tu utilises les propres firmes également pour dégager encore plus de capital, pour bâtir encore plus soit ton propre compte de trading... ou de continuer tout simplement de bâtir ton portfolio d'investissement. Mais la réalité, c'est que la majorité du monde ne comprennent pas ça. Puis une autre chose qu'ils ne comprennent pas, c'est qu'une propre firme, tu as 10 % de marge d'erreur. Un compte personnel, tu as 100 % de marge d'erreur. Sauf si tu prends les deux, que tu as 100 000 dans ton compte personnel puis 100 000 sur un compte propre firme, la majorité des propres firmes, tu ne peux pas descendre en bas de 10 % du capital initial. Ce qui veut dire, sinon tu perds ton compte, tu perds ton challenge. Fait que tu as juste 10 000 de marge, contrairement à ton compte personnel que tu as 100 000 de marge. Fait que quand tu risques 1 % de ton capital sur un compte propre firme, tu es en train de risquer 10 % de ton capital sur ton compte personnel.
Exactement.
Fait que faut que tu développes un niveau de compétence très élevé ou assez élevé pour pouvoir utiliser ces propres firmes-là à ton avantage. Parce que 95 % du monde vont faire leur compte propre firme, puis 5 % du monde qui vont le passer, puis on s'en vient là, qui vont le passer, vont finir d'une façon ou d'une autre par le échouer. Comme 95 % de ces 5 % %-là vont échouer le fait de se rendre sur leur premier payout. Ils vont passer un compte, je suis certifié, mais je me rends même pas jusqu'à mon premier payout. Mmh. Fait que c'est quelque chose qu'il faut juste considérer puis prendre conscience de, parce que y a trop de hype qui est créé en ce moment autour des propres firmes, puis il y a trop de propres firmes qui sont en train de pousser dans l'univers. Fait que, d'un, il faut que tu choisisses la bonne propre firme, parce que non seulement qu'il y en a plein, c'est que c'est un marché qui n'est pas réglementé. Fait qu'on l'a vu avec MyForexFund.
Il faut vraiment l'utiliser comme un outil.
Ouais,
correctement. C'est un outil. Ouais. Tu crées un propre firme pour faire de l'argent beaucoup plus que si tu avais essayé de grow. Moi, dans mon temps, ça n'existe pas la propre firme. Là. On mettait des 1 000$ pour essayer de l'amener à 100 000. Mais ce qui est nice avec le propre firme, c'est que ça te permet de développer une certaine discipline, premièrement.
Ouais.
Et ensuite, ce propre firme-là, il faut vraiment l'utiliser comme un outil. C'est un outil pour pouvoir « found » ton propre account.
Exact.
So, tu crées, tu passes ton propre firme et avec ce « founded account », tu « found » ton propre compte.
Exact.
Donc, le propre firme, pour moi, c'est vraiment... Moi, je trouve que c'est très intéressant maintenant de venir entre les trois. Donc, avec l'argent du propre firme que tu génères, tu crées ton propre compte de trading. Et ensuite, tu trades sur ton propre firme et ton compte de trading en même temps. Et à travers tout ça, avec ton budget, ton plan mensuel, tu sors une partie pour justement pouvoir investir tes portfolios.
Yeah.
Et là, tu es dans un monde vraiment intéressant. Puisque tous les mois, tu as une somme d'argent qui s'en va dans ton portfolio. Tous les mois, tu es en train de trader dans ton propre firme qui te ramène des revenus. Et une partie de ces revenus-là, tu en prends en profit. Et l'autre partie, tu crées ton propre compte de trading. Et à la première chose que tu sais, après quelques temps, tu es en train de trader sur ton propre compte de trading qui t'amène des revenus que tu peux mettre dans ton portfolio, qui est alimenté par ton propre firme vers ton compte de trading, plus tes revenus vers ton portfolio. Et ça fait une roue comme ça. Et
par curiosité, ce serait quoi le pourcentage de répartition que toi, tu ferais si tu tradais sur un compte propre firme?
Moi, je dis, on va sur un autre épisode pour ça. Sinon, on n'aura pas le temps. Sinon, on n'aura pas le temps pour...
Ajouter quelque chose.
Mais 70-30.
Par rapport à ce que JP a dit tantôt, c'est ça, 1%, c'est vraiment beaucoup, je trouve, généralement, surtout quand les gens sont débutants et intermédiaires. Mm-hmm. Puis une de mes phrases préférées, c'est quand tu multiplies tes risques, tu multiplies tes chances de gagner. Alors, plus que tu mets ton risque low, comme 0,5%, 0,25%, maintenant, quand tu vas chercher des ratios beaucoup plus intéressants, ben là, à la place, on va dire, tu risquais 1%, ben là, maintenant, puis on va dire, le maximum de pourcentage que tu as le droit de perdre dans une journée, c'est 5%. Ben, parce que tu risques 1%, tu as juste le droit de perdre 5 fois. Mais maintenant, si tu risques 0,5%, maintenant, tu as le droit de perdre 10 fois. Tu risques 0,25%. Là, je suis pas bon en maths, mais je vous laisse le faire. Right? So, ça, c'est quelque chose que je suggère à tout le monde de le faire, de diviser ses risques.
Ouais, du 1%, il faut que...
1% sur un prop firm. Prop firm, c'est pas ton argent, de toute façon, tu t'en fous. Tu mets 0,5 là et puis you run with it.
Tu sais, 1% pour moi, c'est correct si tu as assez de statistiques pour comprendre que ton win rate est assez élevé pour c'est te ça. Permettre de le faire. Or ça, si tu n'as pas de statistiques, ben déjà, tu devrais en avoir avant de te lancer. Ça serait beaucoup
le
plus
0,5, c'est... Je mais, pense pour un prop film, 0,5.
0,25, 0,5.
Si tu vas avec du 5,5 de RR, tu fais minimum des 2,5, moins 2,5, 3% pour risquer 0,5. Même si tu passes un trade comme ça que tu gagnes par semaine, tu es en train de faire 12% par mois sur un prop film qui n'était pas ton cash et ton risque à chaque fois, c'est 0,5.
Yeah. Il y a aussi une vérité sur...
Mais attends, mais on doit demander des choses avant ce sujet-là.
Ouais, mais attends, c'est justement, je m'en ai là.
Okay.
Il y a aussi une vérité sur les propres firmes que tu sais, souvent, le monde, il dit « Ah, tu trades notre capital, puis blablabla. » La grosse bullshit, hein, on s'entend. Mm-hmm. Tu ne trades pas leur capital, même quand tu as passé ton compte, tu es encore dans un compte démo. Ouais. Mais l'autre fois, tu m'as envoyé une vidéo, puis c'est quelque chose que j'avais déjà expliqué, mais je vais te laisser quand même l'expliquer parce que c'est très... très exact. Intéressant.
Donc, je ne m'y connais pas sur tous les prop firms, mais je sais que beaucoup de prop firms, ce qu'ils font, c'est pas... tu ne trades pas nécessairement leur capital. Tu trades un compte démo et eux, ils vont te payer par rapport à tes résultats. Qu'est-ce qui se passe? Eux, comment ils font leur argent d'abord? C'est avec les challenges.
Mm-hmm.
Les challenges, un bon marketing pour que le monde achète. Puis le monde qui va acheter beaucoup, c'est les débutants, c'est eux qui n'ont pas d'expérience, c'est eux qui ne sont même pas éduqués. C'est eux qui vont tomber dans le piège, qui vont brûler leur compte prop firm en une journée, un challenge, 20 minutes, finir, ok, j'en rachète un autre, je le sens bien ce trade. Comme ça qu'ils font leur argent premièrement. Après, eux, les prop firms, ce qu'ils vont faire avec le petit pourcentage de traders certifiés, ils vont vendre en fait les données qu'on a, nos bons trades, nos trades gagnants, ils vont les vendre à des institutions et à ce moment-là, nous récompenser. Tout simplement. Ça, c'est ce que j'ai compris.
Copy-paste.
Ouais, exactement.
Ça, exactement.
Ils font même des classes, genre les gros, ils font des classes comme AAA, AA, et puis...
Ouais, ils te mettent dans un pool, puis ouais, quand que t'es dans... Quand que t'sais, t'as un bon historique de rentabilité, ils vont te mettre dans un pool où ce que t'es rentable, et comme tu dis, là, ils prennent tes données, ils les vendent à l'autre compagnie où ce qu'il y a des investisseurs, où ce qu'il y a des grands joueurs, puis là, eux sont capables de générer énormément d'argent, puis c'est pour ça que tu peux avoir... un payout. Fait que si tu as un compte à 100 000 puis que tu as fait 5 % dans ton mois, ben tu as fait 5 000. Mais eux, combien ils ont fait? Ils sont en balance de te donner 5 000.
Non,
ils te récompensent pour tes efforts. Fait que c'est vraiment un win-win. Mais le fait que c'est pas réglementé, ben ça peut nous péter dans la gueule comme on l'a vu.
Exactement.
Avec,
à n'importe quel moment. Tu sais, moi, je pense que est-ce que les propres firmes vont toujours exister? On ne sait pas. Est-ce qu'ils vont complètement les éliminer dans les prochaines années? Je pense pas non plus, mais il y aura des réglementations qui vont rentrer dans les prochaines années, ça c'est sûr. Probablement avant le premier 1 milliard de payout total dans l'année, probablement. Après ça, une fois que la réglementation va être faite, puis que certains profils vont réussir à s'adapter, ça va être bon, ça va être une autoroute pour tout le monde.
Ouais.
Pour les meilleurs, bien sûr.
Il y a un truc que je dis souvent, c'est que les challenges, ça ne s'appelle pas un challenge pour rien, c'est que c'est super challengeant.
C'est dur.
Puis là où c'est le plus challengeant, c'est vraiment sur la partie émotionnelle et psychologique. Puis par rapport aux statistiques également que j'ai donné un peu plus tôt, du fait que le 5% qui vont passer leur challenge ne vont pas se rendre à leur premier payout, mais c'est un peu ce qui t'est arrivé. Fait que j'aimerais ça que tu nous partages
exactement.
Cette histoire-là.
Donc... les challenges, ils sont souvent basés sur deux étapes. Donc, la phase 1, la phase 2. La phase 1, 10%. La phase 2, il faut faire 5%. Maintenant, il n'y a plus... Je ne sais pas s'il y a encore des profs qui te donnent un certain temps pour le faire. Je pense
non.
plus. Temps illimité. Mais à ce qui paraît, ça n'a pas changé grand-chose sur les résultats. Donc, Dans la phase 1, un certain petit pourcentage de personnes ont réussi la phase 1. Dans le certain pourcentage, il y a un autre petit pourcentage de gens qui réussissent la phase 2. Et dans ce petit pourcentage, il y a un autre petit pourcentage de personnes qui réussissent à avoir leur premier payout. À partir de là, c'est quand même très difficile tout le processus jusqu'à son premier payout parce qu'on voit les gros chiffres, des chiffres que probablement la majorité du monde, la première fois, on les a jamais vus. Tu dis, waouh, tu fais ta première journée, on va dire, tu as réussi tes deux challenges, tes funded. Tu fais ta première journée, tu passes un trade, on va dire que ça fonctionne, tu fais 2000, 2%. Tu fais, waouh, aujourd'hui j'ai fait 2000, demain je vais faire 5000. Même chose. Même chose. Et ce qui nous nourrit, ce que personne nous a entraîné en fait en tant qu'humain, c'est le greed, c'est le fait d'avoir faim. C'est inné en nous. Nous les humains, on est comme ça. On veut toujours plus, plus, plus. On n'est jamais satisfait, surtout avec l'argent. L'argent, on veut toujours plus. Il n'y a pas beaucoup de monde au casino, ils gagnent une belle somme, puis ils se disent, ok, c'est bon, j'ai doublé mon capital, j'ai fini. Non, ils veulent plus. Puis dans le trading, on retrouve souvent ça. Donc moi, ce qui m'est arrivé... j'ai placé 2 trades. Tu sais, c'était... En plus, je me rappelle de cette journée, j'ai pas eu de belles opportunités. J'ai eu des opportunités, disons, 3 étoiles sur 5. Je l'ai pris, petit risque, ça a payé, ça a fonctionné. J'ai pris mes résultats, j'ai fait « Wow! » Imagine demain, quand je vais avoir genre mes opportunités, mes vraies opportunités, mes A+ setup. J'ai mon premier A+ setup, je rentre dans mon trade, Ça part. Je break even, je me fais break even. Ça arrive vraiment vite. Moi, je trade les indices, donc il y a beaucoup de volume le matin. Donc, je me fais SL. Mais moi, je me suis dit, mon billet directionnel, c'est haussier. Je vais acheter. Je n'ai pas arrêté de cliquer sur le bouton. Sans arrêt.
Dans un trade?
Non, dans...
Plusieurs trades. Okay.
Plusieurs trades. Okay. Après m'être fait break even, j'étais sûr de moi. Ça arrête pas de descendre. À chaque fois, ça touche une petite zone. J'attends pas de confirmation. Je rentre. Next thing you know, 10 minutes après, j'ai plus de compte. Et là, c'est pas comme si j'ai plus de compte, j'ai perdu mon challenge. Là, c'est mon funded account. C'est le travail des 3-4 dernières semaines qui s'écroule en quelques minutes, en l'espace de 10 minutes. Puis, dans le moment où tu rentres tous ces trades-là, c'est inconscient. Je suis pas conscient de ce que je fais, puis je le réalise à la fin. Je le réalise à la fin quand je peux plus prendre de trade. Et là, je fais waouh, j'ai explosé tout ça. Mais c'est pour ça qu'il faut être patient, discipliné, s'écouter, puis surtout pas être greedy. Moi, ce qui m'a aidé après, c'est de me dire ça va changer quoi dans ma vie que aujourd'hui je fais 5%. Ça va pas changer grand chose, tu sais. Si à la place je peux faire 1% dans ma journée, le lendemain pas trade, 2 jours après reprendre un autre 1%, puis viser vraiment le long terme. Puis aller, tu sais, petit payout, puis après on va plus haut. On augmente, on s'achète un autre challenge en attendant. Donc moi maintenant, avec mon deuxième challenge, ce que je vise, à la place de viser 5% par jour ou 10%, même 10% dans le mois, c'est pas facile de faire 10% dans un mois, c'est challengeant. Ce serait de viser 3-5%. Prendre mon premier payout, que je l'ai réussi en 1 jour, 2 jours, j'arrête de trade. Je ne veux pas me mettre en danger. Prendre ce 3 à 5%, refaire un autre challenge. Même faire un challenge en attendant. Si dans 2 jours, je réussis mon 3 à 5% du mois, j'arrête. Je vais travailler ma patience, faire autre chose, étudier, passer un autre challenge, pourquoi pas. Puis là, maintenant, je n'ai pas ce stress-là de « je dois réussir ce challenge, j'en ai déjà un, puis j'attends un payout ». Donc là, c'est mon objectif. Donc, ce que j'ai appris de ça, c'est vraiment d'être pas gourmand, vivre le moment présent. La perte que j'ai eue avec ce compte, tu sais, c'était beaucoup de travail. Puis pendant 1 mois environ, j'étais plus capable de trade à mon bon niveau. J'étais plus capable d'exécuter. J'étais plus capable d'être discipliné. Je voulais réussir aujourd'hui. Je veux réussir mon challenge. Demain, je vais réussir mon challenge. Puis j'étais trop pressé. Je me suis calmé, j'ai parlé avec ma femme. Ma femme m'a beaucoup aidé par rapport à ça. Elle m'a dit, vis le moment présent, là, je te reconnais plus, réveille-toi. Ça a cliqué, j'ai pris mon temps. Ok, une autre journée, 1%. Ok, c'est bon, belle journée aujourd'hui. Un trade, 1%. Le lendemain, je trouve pas d'opportunité, c'est pas grave, je prends pas de trade. J'ai continué comme ça, sans arrêt. Je me rappelle même d'une journée, puis c'est cette journée-là que ça a débloqué. J'étais sur les marchés le matin et tout ça. Puis là, j'étais avec mon ami en appel. Un de mes amis qui est dans l'académie aussi, Marshall. On regarde un peu. Je trouve pas d'opportunité. Puis Marshall, je me rappelle, il cherchait absolument de prendre un trade. Il était 10h30. Donc là, 10h30 sur les indices.
Je mon trade.
Le trade est parti. On laisse rouler souvent. Donc là, on n'a pas pris d'opportunité. Je dis, tu sais quoi? Aujourd'hui, c'est fini. Je lui expliquais. Puis le fait de lui expliquer, ça m'a aidé aussi. Ça m'a confirmé là, comment il faut attendre. J'avais mes alertes et tout ça. Je me suis dit, aujourd'hui, je ne trade pas. Je n'ai pas eu mes opportunités. J'ai eu mon alerte. Finalement, j'ai eu une alerte à 13h. J'ai pu prendre un trade gagnant. Ce que ça m'a appris, c'est même si que je me suis dit que je n'allais pas trade, le fait que je me suis dit que je n'allais pas trade, ben, ça m'a aidé aussi d'être plus patient. Puis là, j'ai compris. Sois patient. Des opportunités, il y en a tous les jours.
Tout le temps.
Tout le temps. Pourquoi je vais rentrer au beau milieu d'un trade? Pourquoi je vais chase un trade? Pourquoi je vais placer 10 fois mon Fibonacci, essayer de trouver une zone, puis au final, ça ne respecte pas? Prends ton temps, Wassim. Une étape à la fois, un petit pourcent à la fois, des petits gains, sécurise. Prends ce que tu as à prendre, prends ce que le marché t'offre aujourd'hui. Puis si demain, tu trouves que tu n'as pas des opportunités qui sont faites pour toi, prends pas de trade. Demain, il y en aura une autre. Après-demain, il y en aura une autre. Et on continue, on continue, on continue. Tu sais, si dans le mois, j'ai 5 trades gagnants, on va dire que j'ai juste pris 5 trades, puis j'ai cherché juste 5 trades de A plus setup. Bon, moi, il va être magnifique. Je vais avoir un mois peut-être minimum 10%. Minimum par rapport à mes ratios, minimum. C'est comme ça.
Je me souviens quand que tu venais de faire ton...
Ah ouais, j'ai pleuré.
De ton compte, ouais,
j'ai pleuré, j'ai rarement autant pleuré. La dernière fois, j'ai pleuré comme ça. C'était dans le sport, je devais avoir 16 ans, je ne contrôlais pas mes émotions. J'ai pleuré comme un gros bébé. C'est pas la fin du monde. Dans un mois, si je veux, je peux refaire un autre challenge puis le réussir.
Mais c'est pas l'argent qui te faisait pleurer. C'est l'effort que tu as mis pour avoir ça. Et surtout, ce que tu t'étais imaginé que cet argent allait te permettre de faire. Mm-hmm. Et c'est pour ça que la plupart des gens deviennent greedy ou que les gens FOMO ou que les gens, ils ont peur ou ils sont excités. C'est parce qu'ils sont en train de relier l'argent à des émotions profondes. Genre, avec telle somme d'argent, je pourrais retraiter ma mère. Avec telle somme d'argent, je pourrais voyager avec ma femme. Et donc, subconsciemment, sans réaliser, les gens sont en train de créer le truc le plus destructeur. C'est plus simplement de l'argent. C'est un voyage avec ma femme.
Exactement.
Et là, c'est sûr que tu vas être émotionnel, ta vie, quoi.
Ben, tu sais, il y a une ligne très fine entre l'ambition puis la fin. Très, très fine. Une pensée de plus.
Tu me fais penser à... C'est qui avait dit ça? Il y a une ligne très fine entre... être persistant et être obsédé. Et c'était super intéressant parce qu'il était comme, des fois, il faut juste réaliser que t'es pas en train d'abandonner sur quelque chose. Non. T'es en train de réaliser que ce que tu faisais, c'était une obsession. So, des fois, les gens ils sont comme, ouais, tu dois jamais arrêter, tu dois, nanana, comme grind. Puis il y a ce mindset dans les entrepreneurs de non, jamais arrête de faire ce que tu fais parce que tu sais pas à quel point t'es proche. Mais lui, ce qu'il disait qui était vraiment intéressant, c'est ça, c'est est-ce que tu as cross cette ligne? Est-ce que tu es passé par de cette ligne où tu n'es plus en train d'être persévérant? Tu es juste obsédé, tu n'es pas capable de voir que ce que tu fais ne marche pas et qu'il faut faire quelque chose d'autre. Mm-hmm. La ligne est mince.
Ouais.
Mais, ouais. Je m'en souviens, quand tu m'as écrit, là, ouais. Mais je savais que tu allais revenir. Là. Et comment est-ce que t'as bien surmonté, en fait, ta femme, elle t'a grandement aidé, mais c'est quoi les actions que t'as fait pour t'aider?
Ayez tous une bonne femme.
Ouais, ouais.
Exactement.
Mais c'est vrai, hein? Moi, là, je le répète tout le temps, puis je vais le dire encore, mais ton partenaire, conjointe, c'est ton plus gros asset.
C'est vrai.
Ou ton plus gros liability. Mm-hmm. Elle me dit pas, ouais, non, c'est entre les deux, elle me supporte un peu. Non, bro, il n'y a pas d'entre les deux.
Exact.
Là, c'est noir. C'est des fois, la plupart des choses dans la vie, c'est gris. Mais là, c'est noir ou c'est blanc. Soit c'est ton plus gros asset, soit c'est ton plus gros liability.
C'est ça.
Un ascenseur, ça va dans deux directions, en haut, en bas. Et puis, une des côtes que j'aime le plus, c'est que les gens, c'est comme des ascenseurs. Soit ils t'amènent vers le haut, soit ils t'amènent vers le bas. Alors, choisis bien.
Exactement.
Cette personne-là, elle dort dans ton lit.
bro.
Exact. Juste une parenthèse par rapport à ça.
C'est extrêmement important.
Nos femmes, nos blondes, ils veulent notre bien. Mm. Mais souvent, ils veulent la sécurité.
Ouais.
Exactement. Ils savent pas, des fois, la personne, quelqu'un peut pas savoir ce qui est bon pour toi ou whatever. Mais si elle serait contre par rapport à ça, je le comprendrais. Mais moi, je la remercie beaucoup qu'elle me pousse par rapport à ça. Elle sait que c'est risqué, mais elle a confiance en moi. Elle me voit mettre le travail. Donc, elle me pousse, elle m'encourage. Puis des fois, elle me remet les pieds sur terre. Mais elle me dit pas, arrête, c'est trop risqué ou quoi que ce soit. Mm. Elle me dit, non, tu vas réussir, tu vas le faire. J'ai besoin de toi, on va réussir ensemble.
On est
une équipe et on avance.
Mais souvent, quand c'est le contraire aussi, puis que t'as l'impression que la personne te met des bâtons dans les roues, c'est soit qu'elle te met vraiment des bâtons dans les roues, ou soit que la personne ne comprend pas réellement c'est quoi le but, c'est quoi l'objectif en arrière. Donc, t'es pas en train d'inclure ta femme ou ton conjoint.
Yo, je te jure, t'as lu dans mes pensées, c'est ce que j'allais dire.
Puis c'est pour ça que c'est important quand tu as une relation de couple de bien communiquer puis d'inclure l'autre personne dans tes projets. Tu sais, le nombre de personnes qui se lancent pas dans le trading ou qui se lancent pas dans
juste
dans la
conjointe,
crypto.
Ta famille au complet. Surtout si tu as des ados et des choses comme ça et puis papa est moins présent ou maman est moins présente. Mais si ça devient un objectif de famille, hey guys, là on est en train de faire ça parce qu'on va s'acheter telle voiture. Puis là les ados, c'est eux qui décident à quoi va ressembler la voiture. Nanana. Là ça devient un but familial. C'est normal que tes ados, ta femme ou ton mari tout d'un coup commencent à être un peu énervés ou se sentir moins bien si de nulle part tu passes moins de temps avec eux, mais ils n'ont pas réalisé qu'est-ce que ça leur amène. Mais si maintenant ils réalisent qu'est-ce que ça leur amène à eux aussi, mais ils sont gagnants et au lieu d'être un truc en solo, ça devient un objectif commun, c'est un but familial. Parce que la femme a décidé, moi, je veux telle cuisine. Ma chérie, il faut réaliser, on va faire ça. Les enfants ont décidé, moi, je veux... Oh, papa, moi, j'aimerais toute telle voiture. Et on vient inclure tout le monde dans ce but commun. Et là, ça devient beaucoup plus fort. Parce que tu ne peux pas blâmer non plus quelqu'un qui ne te supporte pas si tu ne l'as jamais inclus dans tes buts.
Exactement.
Yes. Yo, là, on est allé débattre tout ça.
Non, mais c'est la réalité.
Il y a plein de podcasts dans ce podcast.
Il y a plein de, je te jure, il y a comme 4 épisodes dans un épisode.
Mais tu vois, ça, c'est parce que les profs, c'est tellement dur, c'est tellement challengeant.
Ouais.
C'est pour ça qu'on tombe là-dessus.
Tu sais, le monde, ils disent que c'est 80% psychologique, 20% technique, mais la réalité, c'est que c'est 100% des
100%.
Deux. C'est juste que la partie technique, c'est technique. C'est beaucoup plus facile à maîtriser. La seule chose qui va te faire échouer quand ton niveau technique est bon, c'est la partie psychologie, c'est la partie sentimentale. Puis les propres firmes, les conditions des propres firmes sont faites pour que ça te dégage énormément d'émotions puis que ça joue énormément sur ta partie psychologique. 100%. Encore plus que quand c'est un compte personnel. Encore plus que quand c'est un compte personnel, tout simplement parce que c'est les conditions des propres firmes qui font en sorte que ça vient... destroy quelqu'un psychologiquement, mais au moins t'as bien su remonter le
est-ce que
le
vous
tout,
savez pourquoi les gars?
Pourquoi quoi?
Est-ce que vous savez pourquoi les gens se concentrent sur pourquoi les gens ils regardent l'analyse technique? Pourquoi tout le monde est tellement concentré sur l'analyse technique?
Parce que ça leur fait trop peur de penser à leurs problèmes.
Exactement. Les gens se concentrent sur l'analyse technique parce que c'est plus facile en tant qu'être humain d'accepter le fait que le problème, c'est sur un graphique plutôt que le problème, c'est toi.
C'est vrai.
Ouais, bah, tu sais, si t'as manqué ton entrée, le problème, c'est pas le marché, c'est toi.
Ben oui.
C'est ça. Mais c'est pour ça. Mais pourquoi tout le monde maintenant, pourquoi toutes les formations, pourquoi tout le monde, ils se concentrent toujours sur l'analyse technique? Analyse technique, analyse fondamentale.
Parce que c'est plus facile à maîtriser, puis personne ne maîtrise la partie psychologique et émotionnelle.
Pas juste parce que c'est plus facile à c'est pas juste plus facile à maîtriser, c'est plus facile à accepter. C'est plus facile à accepter que le problème, c'est des chandelles, plutôt que le problème, c'est toi.
Il y a plein de gens qui savent même pas qu'ils sont impulsifs.
Mais bien sûr.
Moi, je savais pas que j'étais impulsif.
Moi, je suis super calme, les gars.
Mais
toi, tu savais pas que t'étais impulsif? Bro, je me souviens d'une conversation qu'on a eue, toi et moi, dans un trade house back in the day. Mais je dirais pas ce que je t'avais dit. Tu te souviens? Je sais, est-ce que tu veux une luxe ou est-ce que tu veux une...
Ah oh, ouais, dis-la, comment, dis-la.
Non, pas ici, pas maintenant.
Pas ici.
Un autre podcast.
Tu parles de voiture.
Ouais,
de
luxe ou... Voiture de luxe ou... c'est ça. Parce que... Mais toi, t'étais tellement impulsif, bro. Oh my God.
Je voulais juste savoir... attends, avant je te pose la question. C'est pour ça aussi que j'encourage les gens à faire le G20. Parce que le G20... comme ça expose littéralement, est-ce que tu as une bonne gestion de risque? Est-ce que tu as une bonne gestion de risque? Et est-ce que tu as un contrôle de tes émotions?
Ça en passant, le G20, c'est un challenge trading par Gorry. C'est pas le moment où tous les...
Ouais, c'est ça. C'est pas...
où tous les pantins de la planète... excusez-moi, les présidents les se réunissent. Ouais. Non, non, quoi?
Les, hein? Les poupées? Ouais? Les...
Non, okay, les présidents.
Okay. Président. Ouais. Ben ouais, c'est ça. Puis ça, c'est une des choses que j'encourage les gens avec le G20 parce que, pour de vrai, littéralement, moi, je m'en fous si tu perds la majorité de tes trades. Comme, je pense qu'il y a à peu près 4 jours, j'ai un de mes étudiants qui m'a dit il a échoué, il a perdu, genre, je pense, 7 trades sur 10, mais il était, genre, 10% en profit ou 20% en profit.
That's amazing. Ça, moi, je trouve ça incroyable parce que ceux qui n'ont pas compris ce qui se passe, ça veut dire que ce gars-là, son risk management est tellement bon que même s'il perd 70% du temps, il gagne. Imaginez quand il va gagner 40% du temps ou 50% exactement. Du temps. Ça va être un massacre.
Puis tu peux pas... Yeah. Tu peux, ça sert à rien de devenir bon nécessairement à un certain degré. L'analyse technique, si t'as pas maîtrisé les deux choses qui font les plus peur, les deux choses qui sont peut-être même plates, tu vois, qui est tes émotions puis gestion de risque.
T'as une ginette, ah.
Ouais, c'est ça.
100%. Yo, est-ce que vous avez d'autres choses?
Non, je m'en allais lui demander son dernier.
Ouais, moi aussi, conseil. J'allais dire c'est quoi comme le conseil non financier. Qu'est-ce que maintenant, là, les gens sont en train d'écouter Wassim et ils se disent merde, moi j'aimerais ça apprendre le trading, l'investissement, j'aimerais ça avoir un compte propre firme. Comment il a fait Wassim pour se rendre là? Parce que. Comment, quoi? Qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Parce qu'ils nous entendent toujours, nous. C'est toujours la même voix. Puis tu sais, c'est quoi la réalité? C'est qu'à force que tu entends la même personne, puis que moi, ça fait par exemple 8 ans ou des années, on dirait c'est loin. C'est comme quand tu check ton prof de jujitsu ou quelque chose comme ça qui explose tout le monde. Comme, ouais, c'est impossible. C'est parce que... Mais qu'est-ce que tu pourrais dire à ces gens-là? Là? Comme, prends ton temps pour vraiment leur faire réaliser.
C'est très simple. Vous allez sur Instagram. Vous cherchez des canaux Telegram avec des signaux et vous les rentrez. Non,
tu payes.
Tu payes 150 par mois puis tu rentres. Non, la vérité, c'est premièrement, il faut s'éduquer. Il faut savoir. Non, mais premièrement, pour vrai, il faut savoir pourquoi tu veux faire ça. Qu'est-ce qui t'intéresse dans le trading? C'est quoi tes objectifs par rapport à ça? Tu t'attends à quoi du trading? Après, s'éduquer. Comment on s'éduque? On est en 2023. Bientôt 2024, le nombre d'informations qu'on a gratuites ou payantes sur Internet, elle est infinie. Avant, je pense à l'époque, il fallait trouver un mentor, travailler dans un hedge fund. Peut-être pour être embauché, il fallait que tu ailles un diplôme de malade mental
si
dans
une
université.
Tu voulais juste lire un petit truc, tu devais passer 3 jours à la bibliothèque.
Ouais, exactement. Maintenant, ChatGPT, tu trouves ta source, la source, tu vas la chercher, tu étudies. Mais vraiment... Les gens, il faut s'éduquer. Il faut s'éduquer le maximum possible. Apprendre c'est quoi le trading. Avoir de bonnes bases. S'il n'y a pas de base, à un moment donné, quand tu vas arriver en haut, ça va s'écrouler. Tu ne vas pas comprendre pourquoi. Il va falloir redescendre en bas. Avoir de bonnes bases, s'éduquer, travailler, tester, backtester, trouver une stratégie. Travailler cette stratégie plusieurs fois. Là, on ne parle pas de... 4-5 trades, là, on parle de milliers de trades à faire, à tester.
Sur la même stratégie.
Sur la même stratégie, sur
si
la
les
même
les gens, ils vont toujours du lapin, hein. Ils sautent d'un lapin à l'autre, d'un gazon à l'autre. Ah là, ça a marché 5-6 fois. Ah là, 7-8-9, ça marche pas. Ah, je vais changer ça.
Exactement.
Ça revient à ce que tu disais, le problème, c'est toi.
Exactement.
Voilà.
Tu sais, la stratégie que tu vas trouver, de base, tu l'as fait pour toi, pour ce qui te convient à toi, pour la personne que tu es, pour les heures où tu peux trader. À partir de là, tu développes, tu te pratiques. Puis après, quand tu es passé par tout ça, c'est là où le mental y embarque. C'est là où il faut être concentré à fond et comprendre ses émotions, comprendre c'est où que j'ai de la misère. Est-ce que c'est dans mes graphiques? Très souvent, non. T'sais, une analyse, c'est une analyse. Tu la maîtrises. Au début, ça te prend 1 heure à analyser un graphique. À la fin, ça te prend 5 minutes. C'est super rapide. Mais là-dedans, il faut travailler, il faut être confiant quand on arrive devant les marchés et patient en même temps, être capable d'exécuter rapidement, dépendamment de ce que tu trades, puis quel time frame, tout ça. Tout un mélange. Mais tout part de nous. Comment on est nous, comment on se développe nous. De base, quand on commence le trading, on n'est pas prêt pour ça. On n'a pas le mindset pour ça. On doit le développer. Puis comment on le développe? L'éducation, avoir des mentors, faire un mentorship semi-privé, privé, c'est super important. Tu avances d'une manière exponentielle, rapidement. Tu sais, dans l'académie, c'est 12 semaines, le mentorat.
12 semaines, yeah. 12 semaines, ouais.
Hey, tu peux commencer le mentorat avec aucune base, puis si tu es motivé, puis si tu fais le travail que tu as à faire et tu es coachable, tu vas avancer super rapidement. À la sixième semaine, tu n'es plus la même personne que la première. Juste 6 semaines, là, c'est un mois et demi. C'est pas grand-chose. Puis être patient, voir les choses long terme. C'est quoi tes objectifs sur 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, pas le prochain mois? Je me rappelle, on s'était parlé au mois de janvier l'année passée ou début février. Puis j'avais écrit mes objectifs, court terme, moyen terme, long terme. Là, pour moi, en ce moment, on vient de commencer le moyen terme. Et je me rappelle, dans mon objectif, le moyen terme, c'était écrit « Commencer un challenge propre firme ». Parce que je savais que je n'étais pas pressé. Je suis arrivé dans le trading, je suis arrivé d'une manière de « je ne suis pas pressé ». Je n'ai pas besoin de réussir le mois prochain. Je me donne du temps.
Nice.
Et c'est ce qui m'a permis. Bon, c'est vraiment… Mais tout ça, je l'avais oublié à un moment donné. Je l'avais laissé derrière. Quand j'ai vu les résultats, j'ai fait « waouh, je suis trop fort. Je suis trop fort. Le mois prochain, je vais faire 15% funded account. Je vais sortir 15 000. Je vais acheter tout. » C'est vrai, je vais faire plaisir. Je vais aller au Louis Vuitton faire plaisir. Je vais payer un voyage. Je vais payer mon loyer, mon auto.
Yeah.
Et au final, c'est pas ça que je veux. C'est pas ça mon objectif.
Tu as relié l'argent à plein de...
Exactement. Puis, je me suis rendu compte. Puis, il faut apprendre que durant le processus, toujours vivre le moment présent. En cours
répète
de
route, ça, répète ça. Durant le processus, quoi?
Durant le processus, vivez le moment présent. Le processus, il est dur, mais il est le fun.
Yeah.
Et on l'oublie. Moi, je l'oublie. Je deviens comme un robot un peu. Puis je suis juste aux émotions, puis je stresse un peu, puis je... Non.
Si tu regardes hier, tu vis dans du regret. Si tu regardes demain, tu vis dans du stress.
Exactement.
Tu vis aujourd'hui.
Vis aujourd'hui. Yeah. Le résultat qui va arriver aujourd'hui, c'est le résultat d'aujourd'hui, puis c'est passé. Qu'est-ce que je vais apprendre de ces résultats, que ce soit bon?
Cet épisode-là, on est allé sur genre 4, comme chiche!
Non, mais ça fait partie de tout le processus, et tout ce processus-là, on peut le vivre en un seul challenge propre firme. Yeah. Ça, la beauté de la chose.
J'ai une dernière question pour toi. J'ai une dernière question. Je me souviens, je pense que c'était justement dans le bout du début de l'année, ton trading, tu avais de la difficulté avec ton trading, puis on avait commencé justement le mentorship à ce moment-là. Comment est-ce que tu dirais que ce mentorship-là, ça t'a aidé? Parce que tu sais, il y a une différence entre je regarde des vidéos, puis j'y vais en mode autodidacte, et tu as des comptes à rendre, puis tu as quelqu'un qui te pousse en arrière. C'est quoi que tu vois comme différence?
Si, par exemple, tu fais un marathon, OK? Puis toi, ton but, c'est d'avoir des bons résultats à ce marathon. Tu cherches un classement, tu cherches à être dans le top 10, top 50, whatever. Est-ce que tes résultats vont être meilleurs si tu cours tous les jours tout seul, d'une certaine manière, puis tu t'inventes des workouts, ou si tu as un coach derrière toi qui te dit quoi faire, même pas obligé d'être là, mais te dit au moins une fois semaine, c'est quel entraînement tu fais lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, le meilleur résultat, il va être où?
Ouais, 100% le coach.
100% le coach. Après, il ne faut pas oublier, il faut que tu sois coachable. Il faut que tu sois à l'écoute, tu sois prêt à accepter le défi que le coach va te donner, le travail que le coach va te donner. Si tu n'es pas capable de faire ça, ça ne sert à rien d'être coaché. Donc, les cours privés, les cours semi-privés, ce que ça amène, c'est l'expérience de quelqu'un, les erreurs que cette personne-là a fait, il va te les transmettre. Comme ça, tu t'évites de faire les mêmes erreurs. Tu vas probablement les faire. On est d'accord, parce que tu dis que c'est émotionnel, malheureusement. Mais tu vas pas les refaire 10 fois. Tu vas peut-être les faire une fois, deux fois. Puis, tu es en tête, on voit tes résultats. Tu es là, tu peux poser des questions directement à quelqu'un qui a de l'expérience.
Ça te force à être constant.
C'est magnifique. Yeah. C'est magnifique. Tu vois que la personne devant toi qui te donne, qui dit des indications, qui te donne des cours, qui te montre certaines choses, c'est un trader certifié, c'est un trader qui vit de ça. C'est magnifique, tu lui poses directement les questions, tu as les réponses, tu assimiles, puis tu avances. Tu peux poser autant de questions que tu veux. sans prendre tout le cours à toi tout seul, mais tu avances comme ça, puis c'est la meilleure chose qu'il peut avoir. C'est beaucoup mieux qu'une vidéo. Une vidéo, tu la regardes, tu comprends ce que tu peux comprendre.
Exactement.
Tandis que...
tu comprends ce que tu peux comprendre et tu comprends ce que tu penses avoir compris.
Exact.
Le nombre de fois que je fais des sessions semi-privées, puis les gens écoutent des vidéos, puis ouais, ça a été clair. Puis là, je commence, OK, ça c'est quoi? Ils ont compris ce qu'ils ont compris.
Exactement.
En plus, juste ajouter, ailleurs, il y a tellement de vidéos, puis ailleurs, il y a tellement de livres, mais lesquels tu penses qui sont valides ou ne sont pas valides, tu vas pas le savoir.
Exactement.
Tu vois?
Comment tu sais que la voiture est rouge si tu sais pas c'est quoi rouge?
C'est ça. Tu vois, à presque tous les semaines, je fais des appels avec plein de personnes, right? Mm-hmm. Puis je raconte des fois... je me sentais mal. Il y a un gars que ça fait depuis 7 ans qu'il trade mal. Et il a perdu dans sa carrière, il avait perdu genre 40 000 $.
Oh my God.
En trading. Puis il commence maintenant un petit peu à gagner. Mais il trade encore mal. Tu vois, je veux dire... Yo, t'as pas besoin de perdre 7 ans de ta vie, perdre autant d'argent, énergie, stress, quand tu peux juste te pogner un bon mentor.
Exactement.
Qui sait bien trade, qui sait bien t'encadrer.
Une belle communauté aussi.
Ouais, exactement.
Parce que la communauté, ça change la game.
Ça change, ça aide. Puis tu te
sens un méga mastermind, c'est un cerveau géant.
Puis ça te motive.
50, 80, 100 cerveaux ensemble qui ont un objectif commun, qui viennent...
Ça te motive. Tu vois les résultats des autres, t'as envie de montrer aux autres. Moi, ce que j'ai été fier, c'est de, pas juste pour moi, mais pour l'académie, de dire que, écoutez, grâce à l'académie, guys, j'ai réussi à être fundé 2 fois.
Puis tu deviens un genre de mentor un petit peu. Les gens commencent à poser des questions, tu réponds. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que dans la communauté, il y a des gens qui ont plus d'expérience, moins d'expérience. Et ceux qui ont plus d'expérience commencent à faire quoi? À pouvoir aider ceux qui ont moins d'expérience.
Exactement.
Et ça, c'est magnifique parce que pour ceux qui ont moins d'expérience, ça leur permet d'apprendre encore plus vite avec plein de recettes différentes. Plein de gens qui leur ramènent ces ressources-là. Et pour ceux qui ont plus d'expérience, enseigner, c'est la meilleure façon d'apprendre.
C'est vrai. Yeah. Moi, je prends quelque chose qui m'avait vraiment, vraiment aidé. C'est Marsha dans l'académie qui a commencé après moi. Je pense que lui, il a commencé le trading au mois de juin.
Ouais, exact.
J'ai répondu à beaucoup de ses questions. Je me suis assis avec lui. Je lui ai montré ce que je savais. Je lui ai pas dit ça, c'est la meilleure stratégie au monde. Je lui montrais ce que je savais. Il me rappelait, il me posait des questions. Et en plus de ça, il faisait les semi-privés. Et en plus de ça, il écoute toutes les vidéos de l'académie. Son évolution aujourd'hui.
Il est toujours sur les lives aussi, je pense.
Il est souvent sur les lives.
Oui, sinon, il écoute les enregistrements des lives.
Ça, c'est sûr. Puis, son niveau d'aujourd'hui, au mois de juin. Au mois de juin, ça fait pas longtemps. Ça fait quoi? 5 mois, 6 mois?
Même pas. Juillet, août, septembre, octobre.
4 mois. 4 mois. C'est pas du tout la même chose. C'est plus la même personne.
C'est fou, là.
Parce qu'il y a eu...
C'est une session d'université.
C'est ça?
Ouais. Non, c'est sûr que, tu sais, plus tu mets du temps, plus tu mets de l'énergie, plus tu es constant, plus tu as de discipline, bah, plus vite tu vas progresser. Ça.
Exactement.
Well...
Merci.
Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité.
Merci, ouais, aussi.
C'était cool.
J'espère que tu vas inspirer les gens à prendre action et à s'éduquer.
Ah, j'espère bien. J'aimerais beaucoup.
On se voit bientôt, les gars.
Yeah.
Bien sûr.
Ciao.
Merci, bye.